W, un personaje en el mundo.
El personaje está en Francia, se llama Dominique Pellicot. Está contando historias terribles y está enfrentando a más de 50 hombres que la violaron, que abusaron de ella, con la complicidad de su esposo. Nos vamos para Aviñón y saludamos a su abogada, que es la señora Beatriz Savarro. Jean-Paul, s'il vous plaît, salute à l'avocate, agradeciéndole.
Maître Beatrice Zabarro, bienvenue à l'antenne de la W Radio et merci bien de nous accompagner ce matin.
Bonjour, monsieur.
Soy un violador como todos, dijo la señora ante los jueces, ante su esposa. Dominique dijo, lo que estoy es enfrentando a uno por uno. Las frases son increíbles, comenzando por el mayor responsable, que es su esposo de lo que allí pasó. Y están desfilando todas estas personas en este juicio. Yo quisiera preguntarle a la abogada, Juan Pablo, ¿cuándo la señora Pellicot, su cliente, ella descubrió lo que le había pasado?
Maître, on voudrait tout d'abord savoir un petit peu sur l'histoire de madame Pellicot. En quel moment elle a appris ce qu'elle avait vécu dans l'inconscience?
Elle a appris ça le 2 novembre 2020, quand elle est convoquée au commissariat de police de son lieu de domicile, parce que son mari avait, 2 mois auparavant, filmé avec son téléphone portable sous les jupes de certaines clientes dans un supermarché. Donc la police voulait la rencontrer à ce sujet.
Ella se enteró el 2 de noviembre del año 2020, cuando la convocó la policía a la comisaría. Y la convocaron porque su marido había sido descubierto 2 meses antes grabando unos videos bajo las faldas de las clientas de un supermercado. Y luego, al estar indagando, descubrieron los videos donde estaba ella.
Bueno, debo hacer una precisión. Estamos hablando con la abogada de él, no de ella. Dominique Pellicot es el esposo de Giselle Pellicot, que es la víctima. Él dijo abiertamente, soy un violador, como todos los que están en esta sala. Todos lo sabían. No pueden decir lo contrario. Pido perdón. Esto es inaceptable. Inaceptable. El señor tiene 71 años. Ante esta confesión, ¿cuál va a ser la defensa de él? ¿O de qué se quiere defender?
Étant donné ce que M. Pellicot a dit au tribunal, ce qu'il a dit en reconnaissant le fait d'être un violeur et d'avoir fait à son épouse ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'on peut attendre? Qu'est-ce qu'il espère d'obtenir? Parce que il a déjà avoué.
Il espère surtout que la justice va passer. C'est un peu contradictoire ce que je vous dis là, mais il espère surtout que la justice va passer parce que il a proposé ça à des hommes et ces hommes-là sont venus à son domicile. Ils sont à la cour, ils sont 50 sans le compter à lui. Et sur les 50, il y en a 35 qui contestent les faits qui leur sont reprochés, alors qu'il y en a 15 qui confirment les propositions de Dominique Pellicot. Donc il attend que justice passe et que la cour reconnaisse l'implication de tous ces autres.
Pues qué espera él? Que se haga justicia. Pero que la justicia reconozca que él no estaba solo. Que hay 50 hombres junto a él en esa sala, 50 hombres que lo acompañaron en esto, 35 han rechazado la acusación, 15 han confirmado estos señalamientos, así que lo que él quiere es que la justicia actúe y sobre todo que la corte sepa exactamente qué fue lo que pasó.
Uno de los episodios más duros que hemos seguido en estas 2 semanas que ha durado este juicio, Juan Pablo, fue el de ayer cuando los videos y las fotografías de Giselle Pellicot se mostraron en este tribunal. Hoy, el presidente del tribunal decidió que la difusión de las imágenes de violación no van a ser sistemáticas, únicamente a petición de las partes, y cuando se proyecten, únicamente las partes estarán involucradas y los demás se van a salir de esta sala. Ella, ¿cómo recibe para su cliente esta decisión del juez? ¿Lo ayuda en su defensa o, por el contrario, es difícil que lo siga defendiendo cuando pues estos videos únicamente van a ser ya guardados y no se van a visionar por el resto de la audiencia?
Bon, le magistrat a annoncé aujourd'hui que la diffusion des vidéos faites par votre client ne seront pas systématiques. Ça sera fait seulement si il y a la demande de d'une ou plusieurs parties. Est-ce que ça affecte la défense de Monsieur Pellicot?
Non, ça n'affecte pas la défense de Monsieur Pellicot parce que les acteurs de ce procès ont vu les vidéos. C'est-à-dire que les accusés connaissent les vidéos font partie du procès et du dossier, pardonnez-moi, du dossier d'instruction. Donc les accusés, leurs avocats, la cour, l'accusation, les parties civiles, tout le monde a vu les vidéos. Après, quand certains accusés vont contester à la barre, quand ils seront interrogés, vont contester les faits de viol, il est certain que le visionnage de la vidéo aura pour mérite d'éclairer complètement la cour sur la façon de se conduire de l'accusé et sur son état d'esprit qu'on peut largement deviner. Quand vous avez sur une vidéo un homme qui sourit et un homme qui a l'air de prendre du plaisir, on peut pas envisager que cet homme-là a une crainte particulière ou qu'il se sent menacé par quiconque ou qu'il est mal à l'aise, etc. Donc la vidéo, c'est l'image, et l'image, elle a pour mérite d'éclairer complètement les esprits.
Pues nos dice que no, que esto no afecta en ninguna forma la defensa de su cliente, porque en principio ya todas las partes involucradas conocen el video, los acusados, los abogados de los acusados, la corte, la parte civil, todos la conocen. ¿Y por qué razón entonces es más bien necesario mostrarlo en algunas ocasiones? Si algún acusado quiere negar su papel dentro de lo que ocurrió, entonces se solicitaría que se muestre el video para mostrar el comportamiento del acusado. ¿Cuál era el estado del espíritu, digámoslo así, de que se ve en ese video? Si sonríe, si está satisfecho, o si tiene de pronto una cara de miedo, de angustia, de ser descubierto, para así demostrar qué tan involucrado estaba cada uno de los acusados.
El cliente de nuestra invitada ha reconocido que son 70 hombres, 50 están identificados, los reclutó por internet, drogaba a su señora en su casa y se producían más de 200 violaciones. Yo quisiera preguntarle a nuestra amable invitada, más como abogada, como mujer, ¿ella qué siente cuando algunos de estos, no su cliente, que ya confesó, cuando algunos de los reclutados sugieren que había un consentimiento o que la señora disfrutaba, que están ahora echándole la culpa a la víctima? Beatriz Sabarró, ¿qué siente cuando escucha esos testimonios?
Maître, on voudrait essayer d'avoir votre réponse à cette question, mais pas en tant qu'avocat de Monsieur Pellicot, mais comme femme. Lorsque vous entendez les histoires qui sont racontées lors de ce procès, lorsque vous entendez qu'il y a quelques-uns des accusés qui nient une responsabilité et qui disent que Madame Pellicot avait accepté tout ça. Qu'est-ce que vous ressentez ?
Alors, vous me demandez de me positionner en tant que femme. Je vous répondrai que c'est quand même ça serait quand même fort de café. Ça serait quand même fort de café parce que encore une fois, les images sont très très parlantes et donc on peut pas imaginer que Madame soit consciente ou complice de quoi que ce soit. Ça, c'est la femme qui vous parle et je dirais presque que l'avocat vous dira exactement la même chose, c'est-à-dire que même si je suis en défense de Dominique Pellicot, je ne peux pas considérer que cette femme est consciente et que cette femme est complice ou que cette femme a pu adhérer au scénario macabre de son époux. C'est absolument impossible. Donc, quelque part, en tant que femme et en tant qu'avocat, je suis un petit peu sur la même longueur d'onde.
nos dice ella, mire, nos va a responder como mujer. Es imposible negar esas imágenes. Las imágenes lo dicen todo. Es una mujer que no está consciente. Es imposible señalar que ella fue cómplice de lo que hizo el señor Pellicot. Pero ahora nos va a responder como abogada. Piensa exactamente lo mismo. Como abogada, y a pesar de hacer parte de la defensa del marido, ella no puede considerar bajo ninguna circunstancia, viendo los videos, que la señora Pellicot estaba consciente o que fue cómplice para construir ese escenario tan macabro que diseñó su esposo.
Esa línea de pregunta, y obviamente en un régimen y en un estado de derecho, todo acusado tiene derecho a una defensa, y eso es fundamental, que cualquiera sea la persona que cometa un delito, por grave que sea, merece una defensa. Pero para ella, ¿cómo fue la reflexión, y volvemos a la pregunta de Julio, como abogada y como mujer, para aceptar el caso, y por qué lo termina aceptando?
Maître, étant donné que, bon, dans un état de droit, toute personne a le droit à une défense, est-ce que ça a été difficile pour vous d'accepter ce cas? Qu'est-ce que vous avez réfléchi au moment d'accepter le cas de Monsieur Pellicot?
Je n'ai pas réfléchi longtemps pour accepter le cas de Dominique Pellicot, parce que quand je suis allée le voir la première fois, il a été très spontané et très cash. Alors le mot est peut-être très spontané et très cash sur son rôle et sur ce qu'il avait fait. Et en me désignant, j'estimais que, comme dans tous les dossiers où j'interviens, l'individu m'accorde sa confiance, et je trouvais normal de lui rendre cette confiance et de pouvoir travailler avec lui et de faire un duo pour essayer d'expliciter un peu tout ce qui s'est passé, cette raison de passage à l'acte, etc. Donc du coup, j'ai pas beaucoup réfléchi. J'ai accepté, mais en revanche, j'ignorais totalement, quand j'ai accepté cette défense, j'ignorais totalement l'impact médiatique et le message qui allait être porté par ce dossier. Ça, je l'ignorais totalement et en toute sincérité.
Pues nos dice Félix que en realidad no reflexionó mucho tiempo. Ella tuvo ese primer encuentro con el señor Pellicot, él le contó de manera muy espontánea todo lo que había ocurrido, y ella pues consideró que si este individuo le estaba dando esa confianza para contarle toda esa historia, pues le pareció normal que como abogada ella estuviera dispuesta a crear ese binomio para ayudarle a contar a él ante la corte todo lo que pasó. Así que nos dice que en realidad no lo pensó. Ahora, lo que sí la ha sorprendido ahora es el impacto mediático y el mensaje que toda esta historia le está enviando a la sociedad.
Insistiendo justamente sobre ese último punto, Juan Pablo, hablando de ese impacto mediático, ¿cuál es la opinión que a ella le merece? Punto número uno, el hecho de que Giselle Pellicot pues haya rehusado a que el proceso se realizara a puerta cerrada, ella lo quiso que fuera a puerta abierta, y si más allá de esta sumisión química, la gravedad que estamos viviendo en este caso, pues también se está replanteando quizá la sociedad en todo el mundo, justamente cómo es esta relación entre el poder que ejerce un hombre hacia la mujer.
Est-ce que lorsque... Bon, continuons avec ce que vous venez de répondre, Maître Zavaro. On voudrait s'arrêter au sujet de... tout d'abord, est-ce que cette situation est en train de faire questionner le monde sur cette relation de pouvoir qu'il y a entre l'homme et la femme? Et en plus, le fait de que Madame Giselle ait décidé de faire ce procès public a eu pour vous un impact particulier?
Alors, le fait que Madame Pellicot ait décidé de rendre ce procès public n'a pas forcément un impact pour moi en tant qu'avocat de Dominique Pellicot. Que le procès soit à huis clos ou qu'il ne le soit pas, ma défense est la même. En revanche, encore une fois, j'ignorais l'impact médiatique de ce dossier, mais je constate aujourd'hui qu'il est le porte-flambeau d'un sujet sociétal sur le viol et sur sur cette capacité à passer à l'acte. Je crois que ce qui surprend beaucoup dans ce dossier, c'est que le violeur, je parle de mon client, le violeur, c'est le mari. Et donc, c'est un schéma, c'est un cas de figure qui est tout à fait exceptionnel en soi. Et les gens qui sont venus dans cette chambre sont tous des pères de famille, sont tous parfois des grands-pères. Alors, je parle principalement, encore une fois, pour respecter ce que la Cour a demandé de respecter en début des débats, je parle essentiellement des 15 personnes qui reconnaissent. Je ne parle pas des 35 autres qui contestent, parce que je ne veux pas que ma parole soit mal interprétée. Mais sur les 15 qui reconnaissent, ce sont des monsieur tout le monde. Ce sont des pères de famille, ce sont des grands-pères, ce sont des gens qui sont insérés, qui ont un travail, qui sont en couple ou qui sont séparés. La seule chose qu'on peut essayer de distinguer dans ces situations, c'est qu'il y a quand même un point commun, c'est qu'ils sont tous sensiblement dans une misère sexuelle. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas heureux sur le plan du sexe. Voilà. Mais au-delà de ça, j'ignorais. Encore une fois, que le huis clos soit prononcé ou pas ne change rien pour moi. Mais je comprends maintenant l'impact médiatique de ce dossier et le sujet qu'il porte sur la notion de viol.
La primera parte de su pregunta dice en la abogada Florencia que para ella el hecho de que Giselle publicó haya pedido que el juicio fuera público no tiene ningún impacto ni cambia nada. El proceso hecho a puerta cerrada o en público, para ella, en términos de defensa, habría sido exactamente el mismo. Ahora, el hecho de que este proceso o este caso se haya convertido en una suerte de antorcha, de una reflexión social en torno a la violación, es lo que en realidad le ha sorprendido de llevar este caso. Y aquí quiere hacer ella una diferenciación o una separación muy importante en tres grupos. Primero, dice ella, el violador es el marido. Dos, ella ahora va a hablar únicamente, o se refiere al grupo de los 15 que han reconocido su participación en la violación. No puede hablar sobre los otros 35 porque se acordó que ella no iba a hacer referencia a esos 35 en la corte. Pero de esos 15... son personas comunes y corrientes. Son el abuelo, son el tendero, son el señor que puede ser cualquiera persona de la calle. Ella dice Monsieur Tout le Monde. Y todos comparten algo en particular. Viven en una situación de miseria sexual. No son felices en el plano sexual. Eso es lo que más le ha sorprendido.
Escuchan ustedes en primicia a la abogada de Dominique Pellicot, el hombre que ha confesado haber violado a su esposa, drogándola e invitando por internet a más de 70 hombres a que lo hicieran en la propia sala de su casa, en la propia habitación de su casa, y como si fuera poco, grabando toda esta tragedia que tuvo que vivir su mujer y que ha confesado. Esta mujer que nos atiende de manera muy amable en una entrevista muy difícil es su abogada. Ana, le escucha Madame Savaro.
Julio, yo quiero saber cómo era o qué tanto sabe ella de cómo era la relación de ellos durante todo este tiempo que esto ocurría, en los momentos que al parecer pues eran pocos en que la señora Pellicot no estaba drogada. ¿Cómo era la relación de estas dos personas? ¿Qué tanta normalidad había? ¿Qué tantas discusiones habían?
Es que avant de que Madame Pellicot ait connu cette histoire, Dominique et elle avaient une relation normale. Est-ce que ils étaient amoureux? Est-ce que ils se battaient? Quelle est la réalité de ce couple avant de cette début du procès?
Le couple Pellicot est marié depuis 1973. Ils ont trois enfants. qui sont nés respectivement en 1976, 1979 et 1986. C'est un couple qui s'entendait très bien. C'est un couple dont les gens et dont l'entourage et dont les proches disaient que c'était un couple fusionnel. C'est-à-dire qu'ils étaient l'exemple même de la continuité d'un couple et du bonheur d'un couple qui avait décidé à la retraite de se retrancher dans une maison dans le sud de la France, donc dans ce village de Mazan, dans une maison avec une piscine assez grande pour pouvoir recevoir les trois enfants avec leurs conjoints et leurs enfants respectifs. Et c'était un couple qui était somme toute une famille qui représentait une famille unie, soudée, avec des enfants qui s'entendaient bien. Il n'y avait pas de disputes entre les enfants, il y avait des disputes dans le couple, mais comme tout couple peut connaître parfois des moments de dispute, mais il n'y a jamais eu de violence physique entre eux. Voilà, c'était un couple qui vivait en harmonie, complètement en harmonie. Et donc, d'où encore plus la surprise, voire le traumatisme que cette procédure et que la révélation des faits a créé chez Madame Pellicot, bien sûr.
Myriane. La pareja Pellicot era una pareja modelo desde que se casaron en 1973. Tuvieron sus tres hijos en 1976, 1979, 1886. Amigos, conocidos, todos aquellos que los rodeaban solamente hablaban de la felicidad de esa pareja. Una pareja que había decidido, luego de recibir su pensión, irse a vivir a un pueblecillo llamado Mazán. Buscaron una casa lo suficientemente grande, con piscina, para no solamente vivir allí ellos, sino poder recibir a sus hijos con su familia completa. Una familia unida, que se podría decir que estaba soldada prácticamente. Claro, en la pareja puede haber discusiones, pero en realidad era una pareja que vivía en armonía, cuya armonía se rompió cuando arrancó esta historia.
Juan Pablo, yo quiero preguntarle a la abogada, adicional a esos 50 hombres que sí abusaron de Giselle, está Jean-Pierre Marechal, de quien se dice fue el único que en ese entorno no violentó a Giselle, pero sí imitó los métodos de Dominic abusando a su esposa, mujer de la que también habría abusado Dominic. ¿Por este caso, el de la esposa de Jean-Pierre, se le abrirá un proceso adicional a Dominic?
Maître Navarro, lors du témoignage de Jean-Pierre Marechal, bon, d'après ce que l'on a connu de Monsieur Marechal, il n'a pas violé en principe Madame Pellicot, mais par contre il a invité votre client à violer sa femme en utilisant le même méthode qu'il utilisait avec Madame Pellicot. Est-ce que, à cause de cette situation-là, votre client devra faire face à un autre procès par un autre viol?
Alors, vous avez raison sur le fait que Jean-Pierre Marechal n'est pas venu au domicile de Monsieur Pellicot pour violer Madame Pellicot, mais a demandé à Dominique Pellicot de venir violer la sienne, violer sa femme à son domicile à lui. Ce procès, ce dossier-là, fait partie du procès qui nous occupe. C'est-à-dire que le dossier de Monsieur Marechal a été intégré dans le dossier de Monsieur Pellicot. La différence qui nous oppose avec M. Marechal, c'est que M. Marechal vient dire que M. Pellicot a initié Jean-Pierre Marechal et M. Pellicot dit que M. Marechal faisait ça avant qu'ils ne se rencontrent tous les deux. C'est un peu la différence qui nous oppose, mais elle est quand même de taille, cette différence, parce qu'en fait, M. Marechal a un petit peu adopté le positionnement des autres, c'est-à-dire que c'est Pellicot qui a décidé, c'est Pellicot qui a inventé, c'est Pellicot qui a créé, c'est Pellicot qui a instrumentalisé les uns et les autres. Chacun se fuit sa propre responsabilité derrière la responsabilité l'identité de Dominique Pellicot. Je trouve que c'est quand même un petit peu facile parce qu'encore une fois, vous avez affaire à des hommes qui sont des adultes responsables et qui sont pères de famille.
Tienes razón en un asunto y es que efectivamente el señor Maréchal invitó al señor Pellicot a su casa a violar a su mujer con el mismo método y en cambio él sí no fue a violar a la señora Pellicot. Sin embargo, este caso también está dentro del mismo proceso. Todo está dentro del mismo proceso. ¿Cuál es la discusión que hay en este momento? El señor Maréchal dice que fue el señor Pellicot el que lo inició a él en esto. El señor Pellicot dice que el señor Maréchal ya hacía esto con su señora antes de que él fuera a abusar de ella. Pero digamos que esa es la discusión en este caso del proceso, porque lo que sí se rehúsa el señor Pellicot y su defensa es a que lo responsabilicen a él de todo, como si él hubiera creado todo un entorno y como si él hubiera instrumentalizado a todos los que participaron de este hecho, cuando en realidad cada uno de los hombres que participó de estas violaciones son hombres mayores, adultos, conscientes y capaces de entender.
Mira, antes de su pregunta, Juan Pablo, primera página de Le Monde de hoy, que tiene además tres artículos al interior. Traduzcamos cómo titula Le Monde hoy en su primera página.
Dice, proceso, Giselle Pellicot denuncia una revelación humillante.
¿Los videos?
Sí. Sí, y las fotos íntimas, porque continúa el texto diciendo las fotos íntimas de ella que fueron presentadas en la audiencia del miércoles supuestamente para mostrar que ella estaba en consonancia con todo lo que le habían hecho. Yo quiero preguntarle ahora a la abogada Beatriz Zavarro sobre el relato que hizo su cliente al comienzo de la audiencia, porque primero que todo, él no llegó los primeros días y por eso tocó aplazarla. Pero luego, la primera vez que él se sienta ante el tribunal...
Estaba enfermo, ¿no?
Él relata, sí, tuvo que estar en el hospital. Él relata que fue abusado, que luego lo obligaron a abusar. Y de una u otra forma se mostraba como si lo que él hizo no fuera más que la consecuencia de unos hechos que ocurrieron en su infancia y su juventud. Con esto se busca disminuir o conseguir una reducción en la pena a la cual pueda ser condenado. Maître Zavarro, étant donné que votre client, tout d'abord, bon, il n'est pas venu les premiers jours où il était attendu d'être écouté, mais finalement, il est venu au début de cette semaine et il a raconté qu'il a été violé lorsqu'il était petit, mais ensuite qu'on l'a obligé à faire ou à participer d'un viol multiple. Enfin, est-ce que avec ce qu'il a raconté, vous cherchez avoir peut-être une réduction dans sa peine parce que il voudrait montrer qu'il a fait ce qu'il a fait parce qu'il est victime lui-même de viol?
Non, je cherche pas ça. Je dis simplement que dans un débat devant une cour d'assises, dans un débat judiciaire devant une cour d'assises, on explique la personnalité de l'accusé, son parcours de vie depuis sa naissance, et on cherche à comprendre. Donc Dominique Pellicot, comme les autres, a vu son parcours de vie examiné par la cour d'assises, a dû expliquer qu'effectivement il avait fait l'objet d'un viol quand il avait 9 ans, qu'il avait assisté contraint et forcé à un viol collectif quand il avait 14 ans, et pour être tout à fait complète, qu'il avait assisté sans le prévoir et de façon incidente, il avait assisté à des scènes de violence sexuelle entre ses parents. Il l'explique simplement. Ça fait partie de sa vie. Donc c'était des éléments qui devaient être portés à la connaissance de la cour. Mais en expliquant cela, il n'a pas cherché à se qualifier de victime de sa vie. Il a simplement expliqué ce qui a composé sa vie, sans chercher à ce que les gens s'apitoient sur son sort. C'était pas du tout le but recherché, et ce n'est pas le but recherché.
Nos dice la abogada que no, que de ninguna manera. Ese no es el objetivo. Lo que pasa es que cuando hay un caso de este tipo, hay que presentar no solamente el hecho, sino presentar la personalidad del acusado, definirla, para que así la corte tenga la posibilidad de conocer lo que él ha vivido. Y en el momento en el que el señor Pellicot se sienta en el estrado, pues tiene que relatar que fue violado a los 9 años, que a los 14 años participó de una violación colectiva y que además en varias ocasiones le tocó asistir a escenas de violencia sexual protagonizadas por sus padres. Pero eso lo cuenta él porque hace parte de su vida. Pero nos dice la abogada que en ningún momento busca él hacerse ver como víctima. No está buscando que la gente sienta compasión por él. No, eso en ningún momento.
Una pregunta muy puntual para explorar los motivos que la llevaron a aceptar el caso. ¿Ella es una abogada privada y quién le paga? ¿O, por el contrario, es una abogada de oficio asignada por el Estado?
Maître, una question afin de comprendre le fait que vous soyez en train de mener ce cas et de défendre monsieur Pellicot. C'est monsieur Pellicot qui vous a cherché et qui vous paie, ou vous êtes avocat de l'État?
Je suis aidé par l'État.
Recibe ayuda del Estado.
Su cliente ha negado haber violado a su hija de la misma forma que lo hizo a su pareja, pero en su archivo tenía fotos de ella desnuda y dormida. ¿Se ha logrado esclarecer si Dominic drogó y abusó a su hija Caroline?
Maître, qu'est-ce qui s'est passé avec Caroline, avec une des filles du couple Pellicot? Parce que on a trouvé, bon, la police a trouvé des photos d'elle toute nue et inconsciente. Est-ce qu'on sait déjà qu'est-ce qui s'est passé là?
Alors, d'abord, c'est la fille de monsieur et madame Pellicot. Donc, ils ont 2 garçons et une fille. Et ensuite, les photos qu'on a trouvées, ce sont des photos où elle n'est pas nue. Ce sont des photos où elle est en culotte et petit débardeur et elle est en train de dormir dans un lit. Et Caroline Pellicot, Caroline Perronnet, parce que c'est son nom, a indiqué qu'elle était persuadée que, d'abord, elle disait qu'elle ne dormait jamais dans cette position et que donc, de ce fait-là, elle pense que son père l'aurait droguée et voire peut-être un peu plus. Monsieur Pellicot, depuis le début de cette procédure, a toujours indiqué qu'il n'avait pas touché sa fille et qu'il n'avait pas drogué sa fille. Et comme je le dis souvent, Madame Pellicot Perronnet a une conviction qu'il est difficile de combattre avec de simples mots, mais malheureusement je n'ai pas d'autres arguments, je n'ai pas d'autres moyens de lui faire comprendre que peut-être elle fait fausse route. Et ensuite, la cour criminelle ne juge pas Dominique Pellicot pour des faits de violence sexuelle à l'encontre de sa fille. Il n'est jugé pour sa fille que pour avoir pris les photos de sa fille, ce qu'il conteste, parce que les derniers jours de ses débats, il a contesté avoir pris ses photos. Mais voilà, au-delà de ça, il s'est rien passé avec sa fille.
Nos dice primero que todo que estas fotos ella no está completamente desnuda. Tiene un panty o tiene algo que la cubre. Y nos señala que Caroline, su hija, que ahora es de apellido Perronnet, aduce que ella nunca dormía en esa posición y que, por ende, para que ella hubiera estado dispuesta a estas fotos, su padre la tuvo que haber drogado. El señor Dominique Pellicot lo niega, ha señalado que él nunca tocó a su hija. Ella, en cambio, está insistiendo en que eso pudo haber pasado. Y nos dice la abogada que es algo que será imposible de contrarrestar con palabras, porque es lo que ella se ha metido en la cabeza. Sin embargo, nos precisa, la Corte solamente está juzgando al señor Pellicot por los casos de abuso contra su mujer. No existen elementos que permitan hablar de que él haya tocado o violado a su hija. Ahora, hay un detalle, sí, que llama la atención. En un comienzo, él reconoció haber tomado las fotos. Ahora, él niega haberlas tomado.
Juan Pablo, vamos a ese pedazo de la vida personal. Cuando llegan a la corte y se sientan cara a cara, ella, la señora Pellicot, Giselle, quiere mirar a los ojos a cada uno de sus violadores. En el caso de su esposo, ¿ellos se miran a los ojos?
Maître, lorsque vous êtes dans la salle, à l'intérieur de la salle, monsieur et madame Pellicot se voient directement aux yeux, ou par contre, ils ne sont pas capables de se regarder.
Alors, je ne sais pas s'ils sont capables ou pas de se regarder. Ce que je sais, c'est que la salle de la cour d'assises est faite de telle façon que le banc des parties civiles fait face au box des accusés. Donc, fatalement, ils sont à près de 20 ou 25 mètres de distance, mais ils sont face à face. Donc, après, peut-être que des échanges de regards ont lieu, mais ça, je ne peux pas le constater, et je ne sais pas, mais je pense que lui doit chercher du regard son épouse, bien sûr, et que peut-être elle doit chercher du regard son époux, parce qu'encore une fois, c'est un couple qui ne s'est plus entendu, plus vu depuis le 2 novembre 2020.
Pues nos dice que, primero que todo, hay que entender cómo es construida la sala de una corte como esta. Está construida de tal forma que la parte acusada va a estar mirando siempre frente a frente a la parte acusadora. Es decir, ellos están sentados mirándose durante toda la sesión, separados por 25 metros. Así que nos dice ella, por lo menos cara a cara sí están. Pero la diferencia, y lo que ella nos puede precisar, es si se miran a los ojos. Ella intuye que él sí debe buscar su mirada. Y ella cree que también la señora Pellicot debe buscar su mirada, porque finalmente eran una pareja de esposos que se amaba hasta ese 2 de noviembre del año 2020.
Juan Pablo, todo el mundo merece un abogado. Y alguien tenía que defender al señor Pellicot, al cliente de ella. Ella es una abogada de oficio del Estado. Pero ante la gravedad de los hechos de este caso, ¿ella consideró rechazar el caso o por razones eminentemente profesionales, así no esté de acuerdo con su cliente, le tocaba aceptar el caso?
Maître, étant donné ce cas si dramatique, ce qu'on allait voir, ce qui s'est passé, est-ce que vous étiez obligé de prendre le cas, de prendre Monsieur Pellicot comme client, ou vous aurez pu, si vous aurez voulu le rejeter et dire non, je fais pas ce cas?
Ah, il est certain que j'avais le choix d'accepter ou de refuser. Rien ne m'est imposé, mais j'ai choisi de le faire. Et je l'ai choisi en connaissance de cause.
Ella siempre tuvo la posibilidad de decir que no. Nada se le impone a ella. Y ella aceptó ese cliente conociendo todo.
¿Por qué?
Et vous l'avez accepté pourquoi?
Parce que je trouvais que c'était un dossier très intéressant. Et c'est un dossier très intéressant.
Porque es un caso muy interesante. Considero que era un caso muy interesante y ha resultado ser un caso muy interesante.
Yo le pido disculpas por la pregunta que le voy a hacer ante un drama tan grave, porque tiene un contenido eminentemente comercial. Pero este es un caso que va más allá de la ficción. Es una realidad demasiado cruda que nadie la habría imaginado. Y esto, pues, es un libreto muy atractivo para el cine y para la televisión. Ellos van por caminos distintos. Él pasará el resto de su vida en la cárcel y ella habrá sanado ese dolor, al menos con lo que está pasando, y yo no sé si perdonará. Lo que sí sé es que jamás olvidará. ¿Se ha planteado ya su cliente, por ejemplo, el tema de los derechos de él contar su historia para televisión?
Maître, celle qui vient est une question un petit peu compliquée, étant donné que il y a, disons, une idée commerciale derrière elle, mais étant donné tout ce que ce cas représente aujourd'hui, étant donné l'histoire qui est vraiment, vraiment, vraiment délicate, mais aussi intéressante à connaître, est-ce que votre client vous a déjà parlé de peut-être dans un futur, lorsqu'il sera déjà en prison, faire une grande interview ou raconter son histoire, mais pour faire un livre ou un film, enfin, qu'on lui paie pour raconter ce qu'il a fait?
Bah, je pense que lui, quand il continuera à être incarcéré, il n'aura pas la possibilité de pouvoir être interviewé. Et la seule chose qu'il peut faire, c'est écrire un livre. Et je peux vous assurer qu'il l'a déjà commencé, puisqu'il m'a donné déjà quelques chapitres. Il m'a confié déjà quelques chapitres pour la suite. Donc, s'il devait écrire un bouquin, en tout cas, il en a eu l'idée. Et je pense que moi, de mon côté, il n'est pas forcément exclu que j'écrive pas le mien. Pour raconter, mais bon, après, ce sont des idées, hein, c'est juste, voilà, je parle un petit peu en l'air, mais je dis qu'effectivement, de toute façon, si c'est pas moi, si c'est pas lui, je crois que l'idée est en train de germer dans l'esprit de certains des intervenants, enfin des gens qui sont là dans la presse écrite et audiovisuelle et qui ont déjà un petit peu l'idée d'un tel documentaire écrit ou audiovisuel.
Pues a ver, en el caso del señor Pellico, una vez el señor esté en la cárcel, nunca podrá ser entrevistado. Pero si tiene una autorización, puede escribir un libro y le puede contar Julio que ya comenzó a escribirlo. De hecho, el señor Pellicot ya le dejó ver a ella, como abogada, algunos de los capítulos que ha escrito.
No, ahí está la serie.
Pero
la serie de él.
Pero la abogada nos dice que ella también puede escribir el de ella sobre
segunda serie.
Su perspectiva de este caso y cómo lo enfrentó. Es una idea que está en su cabeza, pero que todavía no es un hecho.
Son cuatro libros, pero, dos abogados, dos clientes.
Pero nos dice ella que está segura que ya hay periodistas de medios escritos, periodistas que se dedican al audiovisual y otros escritores que sin duda están empezando a trabajar esta historia porque sin duda tiene mucho que contar.
Claro, y a propósito, yo le quiero preguntar a ella, cuando termine el juicio con las condenas que llegarán y todo lo demás, después de todo, ¿qué espera ella que aprendamos todos de esta historia de horror?
Maître, et une fois le procès terminé, lorsque on connaîtra les condamnes, les condamnations, pardon, lorsque on aura finalement trouvé une issue à cette histoire-là, qu'est-ce que vous croyez que la société aura dû apprendre?
Bah, je pense que la société, il y aura un avant et un après Gisèle Pellico. C'est-à-dire que je crois que la société va porter un autre regard sur la notion de viol et de ce qui peut être reproché à un homme. C'est-à-dire que fatalement, je pense que le dossier va permettre des enseignements dans ce sujet. Ce dossier devient un sujet sociétal, c'est-à-dire que la société, encore une fois, à mon sens, va tirer les enseignements de cette affaire et aura peut-être plus de précautions sur le sujet, ou plus de regardera mieux un dossier ou en tout cas une accusation ou une plainte qui pourra parvenir au service de police ou de justice.
Pues nos dice la abogada que ella espera, creería, que después del caso de la señora Pelicot sí haya un antes y un después de la forma en que la sociedad enfrenta las acusaciones o los señalamientos que hacen las mujeres de haber sido violadas. Y cree ella que tal vez ese debe ser el aprendizaje más importante de la sociedad. Que a la hora de recibir una denuncia, que a la hora de escuchar una historia de una mujer que dice haber sido violada, se le ponga mucha más atención y que se tomen las medidas para que esto no suceda como ha sucedido en este caso.
Y me gustaría preguntarle también a nuestra invitada, Juan Pablo. Dominique Pelicot sí está acusado de esta violación a su esposa y organizando estos 200 violaciones, pero también está acusado de otros dos casos de los años 90, uno de una tentativa de violación y el otro es de una violación seguida de una muerte, de un homicidio. ¿En qué van estos dos casos y si ella también lo está defendiendo en estos dos?
Et vous êtes aussi en train de travailler avec Monsieur Pelicot les autres deux cas qui ont apparu des années 90, un sur un viol et l'autre qui est aussi sur un viol et homicide.
Oui, je suis son avocat dans ce dossier-là également.
Sí, ella también está trabajando con él en esos casos.
Yo le tengo una pregunta sobre un escenario hipotético, ya que es el único contacto que hemos tenido con el caso. Repito, es el caso que tiene en tensión a Francia. Y ella, pues, conoce al señor Dominique mucho mejor que cualquiera, porque, pues, lo está defendiendo de algo que ella misma coincide es imposible de defender, pero bueno, ese trabajo es el que ella quiso hacer por lo que nos dijo. Si en otro escenario ella hubiese conocido a Dominique Pelicot en otro escenario, no sé, en un bar, en un restaurante, se lo presenta una amiga, en el trabajo de ella, ¿ese señor tiene alguna o deja algún rastro, alguna señal de preocupación de su personalidad? No necesariamente que ella diga, este señor que está aquí sentado conmigo es un violador, no, pero ¿hay algún rastro que le cree preocupación a una mujer que lo conozca, que diga, este señor tiene algo raro?
On voudrait vous faire une question en partant d'une situation hypothétique. Disons que cette histoire dont vous êtes l'avocat de Monsieur Pelicot ne soit pas passée et un jour vous rentrez dans un bar, dans un restaurant ou lors d'une soirée avec amis et vous connaissez, on vous présente Monsieur Dominique Pelicot. Est-ce que on voit un trait? Est-ce que l'on voit quelque chose qui puisse attirer votre attention et vous faire penser, ah non, voilà, c'est un violeur, ou par contre, c'est un type complètement normal?
Bah, je vous dirais, monsieur, que non, je vous dirais que c'est un homme totalement normal et c'est un homme qui ne porte aucune stigmate sur son physique qui puisse laisser entendre qu'il a pu faire des choses monstrueuses comme il a fait sur son épouse. Il y a rien dans son faciès qui soit qui puisse alerter un quelconque passant ou autre. Non, non, il y a rien, rien. C'est un homme, mais vous savez, les prisons, en tout cas en France, les prisons de France sont remplies de gens qui ont parfois des visages, des beaux visages. Il y a jamais aucune stigmate qui puisse alerter quiconque sur le parcours délinquentiel de quelqu'un. Jamais.
Por favor, muchísimas gracias a la señora Savaro, por atender esta entrevista. Y pues no, uno no le puede desear suerte a ese señor, pero la justicia tendrá la última palabra. Y nos ha parecido muy valiente ella que haya asumido este caso sin estar obligado a atenderlo.
Maître Savaro, merci bien de nous avoir accompagnés aujourd'hui, d'avoir reçu cet appel, d'avoir répondu à une question. On souhaite bon que la justice soit faite dans le cas de Monsieur Pellicot. Et on est vraiment convaincu que vous êtes une brave femme pour avoir accepté ce cas. Merci.
Merci beaucoup, monsieur. Merci bien. Bonne journée.
Bonne journée à vous. Au revoir.
Buen día. Au revoir. Merci.
Pues, a su pregunta. Mire, dice Julio, es un tipo completamente normal. No hay nada, no hay un estigma, nada que pudiera revelar en él las cosas monstruosas que hizo. No hay nada en su aspecto, no hay nada en su forma de hablar que pudiera alertar a nadie. Y nos dice, es que mire, entre las prisiones en Francia, están llenas de gente linda, de gente que no deja ver nada, que no cargan ni un solo estigma de los delitos que han cometido, aunque los cometieron.
Es que mire, el editorial de hoy del diario El País lo firma una escritora que se llama Lola Lafon. La señora Lafon dice, nos han violado porque sí. El juicio de Giselle muestra que no hay mucho que permita distinguir a un violador de otros hombres. ¿Monstruo? Monstruo es sinónimo de increíble y extraordinario. ¿Monstruos? Estos 51 acusados, todo lo contrario, son unos seres humanos mediocres. Estos hombres frente a los que Giselle ha decidido sentarse para poder mirarlos directamente a los ojos, tienen la banal vacuidad de la gente corriente. Son esos vecinos, amigos o colegas de los que nadie puede sospechar. Termina, que no haya ni un minuto más de silencio por las víctimas de la violencia sexual, que el homenaje a las muertas y el apoyo a las violadas se conviertan en un enorme estruendo, un caos inolvidable y duradero, una obsesión.